19h21, c'est l'heure de votre débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on s'intéresse donc au mystère du Covid long. Vous en avez forcément entendu parler. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi certains malades atteints du Covid affichent pendant plusieurs mois après des symptômes avec une fatigue extrême, des difficultés respiratoires, des troubles neurologiques et cardiaques, parfois très sévères. Pour la première fois cette semaine, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a consacré un séminaire à cette question des Covid longs, qui sont de plus en plus pris en considération par les médecins, il faut le dire, même si ces derniers restent, on va le voir, encore démunis face à des symptômes très variés. Cet après-midi, la Haute Autorité de Santé en France a publié une sorte de petit guide. On va y revenir également pour aider les médecins. Alors l'idée, ça n'est surtout pas de vous plomber le moral ce soir. Je sais que certains d'entre vous sont ou partent en vacances. C'est juste de faire une petite piqûre de rappel. On en a parfois assez des gestes barrières. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et que quand on a 20 ou 40 ans, ça n'est qu'une petite grippette. Eh bien, vous allez voir qu'on peut être en pleine forme, sportif, mince, dynamique et du jour au lendemain, sombrer dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous terrasse. On en parle donc ce soir avec mes invités en direct dans ce studio. Dominique Salmon-Céron, infectiologue et professeur des maladies infectieuses et tropicales à l'Hôtel Dieu à Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous tenez une consultation dédiée justement à ces patients Covid long. Vous avez coordonné aussi une étude sur la question. Vous avez donc une vraie expérience et connaissance du sujet. Également, Cécile Monteil, pédiatre urgentiste à l'hôpital Robert Debré à Paris, membre du conseil scientifique de l'association Tous Partenaires Covid, qui mène également une étude sur les Covid long. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Nous allons tout au long de cette émission nous appuyer sur des témoignages, donner la parole à ces femmes, à ces hommes et à ces enfants qui souffrent parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe et pas de prédisposition. Je rappelle ce chiffre, 10% des anciens patients ressentent toujours des symptômes jusqu'à 9 mois après la maladie. Je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble le témoignage de Mélissa, qui est en ligne avec nous depuis Calais. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Merci beaucoup vraiment d'être avec nous en direct ce soir. Alors vous avez 35 ans, vous êtes maman d'un petit garçon de 4 ans et vous avez eu le Covid le 10 mars dernier avec les symptômes, je dirais, classiques, forte fièvre, fatigue, perte du goût et de l'odorat, douleurs musculaires. Au bout de 15 jours, on vous a détecté des problèmes aux poumons. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Alors ce qui s'est passé, c'est que voilà, au bout de 15 jours, je ne m'alimentais toujours pas. J'arrivais toujours pas à m'alimenter. La fièvre était toujours là, donc j'ai consulté à nouveau mon médecin en fait, en présentiel, parce qu'on avait recours à la téléconsultation jusqu'alors, mais voilà, là j'avais besoin d'une vraie consultation. Et donc à l'auscultation, en fait, il a entendu qu'il y avait un problème au poumon, et donc il m'a envoyé directement en fait à la sortie de cette consultation aux urgences avec un courrier pour qu'on puisse me passer un scanner. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'hôpital, puisque à l'issue du scanner, on m'a gardée en observation.
Bon, et tous ces symptômes, Mélissa, on va essayer d'avancer un petit peu dans le temps, ils ont duré combien de temps?
Alors, les symptômes, je dirais, de la phase aiguë, la phase où on est vraiment au cœur de la maladie, de la maladie, ils ont bien duré 6 semaines.
Oui, c'est beaucoup.
Avec voilà, des oppressions thoraciques, des fébricules, le cœur qui pulse, des troubles digestifs. Enfin, c'était vraiment très très long. Je n'en voyais pas le bout. Mais bon, donc 6 semaines, ouais, sur cette phase.
Et ça s'est amélioré progressivement?
Ça s'est un petit peu amélioré, c'est-à-dire que il y avait toujours la fatigue qui était là, etc. Mais j'avais plus les coups de poignard dans les poumons, etc. Enfin, voilà, donc il y avait un petit peu de mieux.
Sauf que si donc... vous êtes là avec nous ce soir, c'est parce qu'aujourd'hui, manifestement, ça ne va pas mieux, Mélissa. Comment vous sentez-vous presque un an après le déclenchement de ces premiers symptômes?
Oui, j'entendais tout à l'heure 9 mois, j'en suis à 11 mois. Ouais. Donc voilà, je suis un petit peu plus. Mais j'attends toujours de retrouver mon état avant Covid. J'ai toujours des problèmes de tension, j'ai toujours de gros essoufflements, j'ai toujours un tas de symptômes qui arrivent par vague en fait. C'est par vague. La dernière qu'on appelle un peu, enfin, j'appelle ça des rechutes. Ma dernière rechute, elle remonte au mois d'octobre. Je suis restée 4 semaines clouée au lit.
Ah oui.
Avec des douleurs énormes.
Et là, vous êtes toujours en arrêt maladie actuellement?
Alors là, j'ai repris au 1er février en mi-temps thérapeutique cette fois-ci. Donc on va essayer de reprendre une vie dégradée, mais une vie quand même. On va essayer.
Bon. Mélissa, vous allez rester avec nous, évidemment. On vous reprend dans un petit instant. Je voudrais que les médecins qui sont à mes côtés réagissent à votre témoignage. J'imagine que vous n'êtes pas surpris par ce que vous venez d'entendre des Mélissa vous envoyer régulièrement, docteur Salmon-Séron, non ? Dans votre consultation.
Oui, c'est vrai que les signes décrits par Mélissa sont tout à fait caractéristiques de ces formes prolongées. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce virus, hein. On a tendance à se dire que c'est un virus qui est virulent à la phase aiguë, mais que les jeunes, on n'a rien à craindre. Mais pas du tout. Des tableaux comme Mélissa, on en voit quelques-uns. Bon, son tableau est particulièrement sévère et je pense que c'est pour ça que vous l'avez invité. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites séquelles et puis ça finit par passer. Mais...
Il y a quand même un pourcentage important de malades du Covid qui ont des séquelles sur le très long terme. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein.
Oui, oui, votre taux de 10% est tout à fait vrai. Alors peut-être qu'à 9 mois, c'est moins. C'est, disons, c'est 10% entre 3 et 6 mois, d'après les études qu'on a. Hein. Mais c'est 10% au total. C'est-à-dire que 10% des gens ont au moins un symptôme. Certains ont par exemple un trouble de l'odorat, d'autres une fatigue. Et puis, un petit pourcentage, c'est le sommet de l'iceberg, sont vraiment extrêmement fatigués, comme
Mélissa. Et cumulent plusieurs facteurs.
Voilà. Alors, ce qui est quand même... encourageant, c'est qu'elle va mieux. C'est pas encore ça.
C'est pas encore ça. Mais... Elle va nous donner de ses nouvelles encore tout à l'heure. On va la reprendre, Mélissa, évidemment. Ce qui est déconcertant avec ce Covid long, c'est le profil des patients qui en souffrent, hein, Cécile Monteil. Souvent, ce ne sont pas les plus vulnérables, les personnes âgées ou celles qui ont déjà des maladies chroniques, comme on pourrait l'imaginer. Hein. Mélissa, elle a 35 ans, elle était en pleine forme.
Oui, et effectivement, c'est tout à fait le cas. Alors, effectivement, chez les patients hospitalisés, les études montrent qu'il y a aussi... des séquelles qui sont parfois plus importantes quand ils ont été hospitalisés. Mais,
ce qui n'est pas le cas de Mélissa, en l'occurrence.
Ce qui n'est pas le cas de Mélissa, mais ce n'est pas pour ça que ça ne touche pas les personnes qui sont jeunes, sans facteur de risque à la base et qui n'ont absolument pas été hospitalisées. Un des facteurs de risque qu'on a pu montrer, c'est quand il y avait plus de 5 symptômes lors de la phase initiale du Covid. Mais après, ça peut être des gens, effectivement, qui ont 20 ans, 30 ans, et qui, normalement, sont considérés un petit peu comme hors de risque. Finalement, le Covid chez les jeunes, c'est pas grave.
Eh bien non.
Eh bien non, exactement. Il peut y avoir des formes graves. Heureusement, ces formes prolongées ne touchent pas la majorité des
bien
patients.
Sûr. Bon.
Quand même voir le côté positif.
Heureusement. Alors, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre ce débat. Mélissa a encore beaucoup de choses à nous dire, me semble-t-il, notamment sur son état d'esprit. Comment vit-on avec un Covid long ? On appellera aussi Bianca et Karine qui, elles aussi, ont vécu et continuent à vivre avec cette maladie non encore très bien identifiée. C'est bien ça le problème. À tout de suite. 19h31, de retour dans votre débat du Club des idées sur Europe 1. Vous savez qu'on parle ce soir des Covid longs. Ces symptômes qui persistent parfois plusieurs mois après avoir déclaré la maladie. À mes côtés dans ce studio, Dominique Salmon-Séron, qui est infectiologue et professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'Hôtel Dieu à Paris, qui tient également une consultation dédiée aux patients Covid long. Et Cécile Monteil, pédiatre urgentiste à l'hôpital Robert Debré à Paris, membre du conseil scientifique de l'association Tous Partenaires Covid, qui mène aussi une étude sur les longs Covid. Nous étions en ligne et nous allons la retrouver tout de suite avec Mélissa depuis Calais. Mélissa, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous avez 25 ans. Vous nous disiez tout à l'heure que vous êtes aujourd'hui...
35 ans,
oui, pardon, c'est moi. J'ai marqué 35 sur ma feuille. Je vous ai rajeuni. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez aujourd'hui très fatiguée encore. Votre mari et votre fils ont également eu le Covid, mais moins sévèrement que vous. Votre fils qui a 4 ans. Alors, on dit souvent que les enfants sont épargnés. Quels étaient ses symptômes à lui ?
Alors, lui, ça a commencé en fait pour lui par une très très forte fièvre. Il a eu beaucoup de vomissements pendant 2 jours. Il n'a fait que vomir. Il était vraiment mal. Il n'était pas sur une forme asymptomatique.
C'est une version intestinale du virus, hein, comme ça peut exister.
Ouais, il s'est pas alimenté pendant quasiment 10 jours, mon fils.
Ah oui.
Donc c'était au sucre. J'ai eu très très peur aussi pour lui.
Mais aujourd'hui, il va mieux, votre petit garçon.
Il va mieux.
Bon.
Ouais,
donc lui n'est pas concerné et votre mari non plus par ce Covid long. Vous nous disiez donc vous étiez encore très fatigué. Vous avez des vertiges, des essoufflements, c'est ça, des pertes de mémoire aussi.
C'est ça.
Des difficultés
c'est ça,
à vous concentrer.
Difficulté à me concentrer, par moments des odeurs fantômes, des maux de tête, cette fatigue extrême, cette tension qu'on a du mal à stabiliser. C'est un panel, un éventail de symptômes extrêmement large, avec toujours un symptôme finalement qui prend le dessus qui prend le dessus, en fait.
C'est-à-dire vous passez de l'un à l'autre et il y en a un qui devient plus fort et qui prend le pas sur l'autre, c'est ça ?
C'est exactement ça, en fait. C'est, on se lève le matin sans savoir ce qui va nous arriver et comment on va passer la journée et si le lendemain, on sera capable de se lever.
Au-delà de ces douleurs physiques dont vous nous parlez et qui sont terribles, vous vivez aussi une grande douleur psychique, morale.
C'est-à-dire que, j'imagine. Il faut savoir, donc avec ce Covid long, c'est qu'effectivement, plus il est invalidant et plus il dure dans le temps, forcément, plus il sera éprouvant psychologiquement.
Vous avez même consulté un psychiatre, hein, je crois, vous, Mélissa.
Oui. Oui. Bah, je pense que à un moment donné, on est tous un peu démunis et désœuvrés face à tout ça. On comprend pas, donc on se pose peut-être aussi nous-mêmes la question est-ce que finalement, je suis pas en train de devenir un peu folle ? Donc oui, j'ai demandé une expertise psychiatrique, oui.
Parce que vous aviez l'impression qu'on ne prenait pas vraiment en compte votre état quand vous disiez que vous étiez une malade imaginaire.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on m'a proposé des antidépresseurs pour essayer. Et donc je ne voulais pas prendre des antidépresseurs pour essayer. Je voulais prendre des antidépresseurs si j'étais dépressive. Donc il fallait une expertise pour ça. Et donc du coup, j'ai pris l'initiative effectivement de prendre rendez-vous avec un psychiatre pour avoir un diagnostic psychologique. Ouais.
Professeur Salmon-Séron, que faut-il dire à Mélissa ? Elle a eu raison d'aller voir un psychiatre et est-ce que c'est bien qu'on puisse lui conseiller de prendre des antidépresseurs dans cette situation ?
Oui, je pense qu'elle a vraiment la tête sur les épaules. Moi, je comprends tout à fait les patients. Ils ont ces symptômes qui sont difficiles à comprendre pour eux, pas faciles non plus à interpréter pour les médecins. Donc, ils sont inquiets et ils sont incertains du lendemain. Ils se demandent s'ils vont retrouver leur état. Donc, si vous voulez, même si au départ, on n'est pas anxieux, ça rend anxieux. Et ça fait partie de l'aide qu'on peut apporter aux patients. On va leur donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires, les aider à se rééduquer. Mais il faut prendre en compte de façon très importante cette anxiété et cette dépression. Je pense que Mélissa ne devait pas être dépressive avant. Ça a l'air d'être une personne très dynamique, qui sait bien ce qu'elle veut. Mais avec ces soucis, ça entraînait plutôt des signes secondaires.
Qui peuvent être très graves, qui peuvent conduire extrémités parce qu'on n'a pas d'horizon dans cette maladie. C'est ça qui est terrible. Hein,
voilà, c'est ça. Donc là, il faut vraiment que les médecins soient vigilants à ces aspects psychologiques. C'est pas une maladie psychosomatique du tout, le Covid. Mais ça a des conséquences psychologiques évidemment importantes. Et il faut aider les patients à surmonter ces phases-là difficiles.
Alors maintenant, les médecins commencent à y voir un tout petit peu plus clair. En tout cas, ce sont des cas qu'ils commencent à connaître un petit peu. Je vois que vous haussez des sourcils, Cécile Monteil. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés ? Est-ce que finalement, ils savent qu'il ne faut surtout pas dire à ces patients Covid long que ce sont des malades imaginaires ? Ça ne fait qu'empirer les choses, hein.
Alors heureusement, effectivement, maintenant, on commence à pouvoir... on sait que ce ne sont pas des maladies imaginaires, puisque on a de nombreux patients qui décrivent toute une cohorte de symptômes très différentes, mais quand même qui se rejoignent. On arrive à peu près à les regrouper. Et si c'était juste un de façon sporadique, on pourrait peut-être dire que voilà. Mais là, pour le coup, c'est vraiment trop de personnes qui sont concernées par cette affection. Après, est-ce qu'on est assez formé ? En fait, pour être formé, il faut avoir la connaissance. Et la Covid-19 est une nouvelle maladie. Et il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas et sur lesquelles on n'a pas de recul. Et je pense que pour les médecins, ça a toujours été quelque chose compliqué d'arriver à expliquer aux patients qu'on ne sait pas.
Ouais.
Qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas les données. Parce qu'on a peur, je pense, d'être blâmé. On est censé toujours avoir la réponse à tout et on ne l'a pas. Et je pense que ce qui est important en ce moment, c'est de comprendre qu'il faut co-construire cette réponse ensemble. C'est finalement ces nouveaux patients, c'est eux qui ont la donnée. Et au corps médical de s'en emparer, il faut que les patients participent aux recherches, collaborent et nous aident en fait à découvrir comment fonctionne cette maladie et comment est-ce qu'on peut la soigner le plus efficacement possible.
Vous êtes d'accord avec ça, Mélissa ? C'est à vous aussi, les patients, d'aller aider les médecins. Je sais que vous êtes administrative d'un groupe Facebook qui regroupe, je crois, plusieurs milliers de personnes.
C'est ça, oui, on est... alors, je suis pas la seule administratrice du groupe, hein, parce qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de personnes, donc on est une petite équipe. Effectivement, donc c'est un groupe de soutien essentiellement,
okay.
Parce que effectivement, moralement, on a aussi besoin de se soutenir les uns les autres. On a tous, à un moment donné, eu ce diagnostic de dépression qui a été posé sur la table, la plupart d'entre nous, on a effectivement une baisse de morale qui est liée finalement à notre état de santé et qui est contextuel, hein, donc oui. Voilà, donc c'est important du coup de effectivement hein, de rejoindre ce type de groupe,
oui, pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer et
c'est
partager
là où on va pouvoir
ouais,
se sentir compris en fait
et écouter, effectivement, voilà.
Effectivement, c'est essentiel. Alors après, c'est toujours compliqué quand on est patient, quand on est malade, de dire à son médecin « Non, je ne suis pas dépressif. Je vous assure que je lui ai dit 30 fois. » Il a fallu une expertise psychiatrique pour qu'il accepte d'entendre que non, je n'étais pas dépressive.
Bon, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, Mélissa. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir en direct sur Europe 1. Je voudrais qu'on entende maintenant Bianca, qui vit en région parisienne et qui a 47 ans. Bonsoir, Bianca.
Oui, bonsoir.
Merci à vous d'être en direct également avec nous. Comme Mélissa, vous avez eu le Covid en mars, c'est ça? Et vous avez vécu des moments aussi très douloureux avec des symptômes pulmonaires, notamment très préoccupants. Vous dites que vous aviez l'impression de respirer avec un sac en plastique en permanence sur le visage. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez... Ouais. C'est ça, ouais?
Oui, je suis d'accord. Après, moi, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai entendu. J'ai un petit souci avec le côté forme prolongée du virus. Parce que pour moi, la partie long Covid n'est pas à confondre avec la partie Covid, en fait. La partie
bien
COVID,
sûr. Non, mais ce sont des choses. Mais je voulais qu'on parle un petit peu de votre Covid et ensuite de votre long Covid.
Oui, je vais parler, ouais. Ouais.
Donc, au début,
mon Covid.
Pardon, allez-y.
Alors, d'abord, ça a été mon fils qu'il a eu à l'école.
Et c'est ça qui est intéressant. Je voulais que vous nous parliez de votre fils parce qu'Adrien, il a 14 ans. On parle beaucoup moins des jeunes et parce que c'est lui qui a été le plus touché dans votre famille. C'est ça. Comment ça s'est passé pour Adrien ?
Je pense qu'il y a pas mal de jeunes touchés par le Covid long. C'est plutôt des gens en bonne santé et beaucoup de jeunes qui sont touchés. Adrien, il a eu le Covid avec des symptômes assez neurologiques, plus que moi, plus neurologiques que moi, dans le sens où il avait des éruptions cutanées, des tremblements, des frissons. Il était vraiment, il avait l'impression qu'il allait mourir, mais il tout tournait, il avait envie de s'évanouir tout le temps, etc. Et ensuite, des maux de tête, etc. Mais ensuite, il y a eu une petite rémission, et puis il y a eu un deuxième temps qui est venu avec l'effort, avec le fait de reprendre l'école, de refaire des efforts. Et là, petit à petit, alors ça s'était pas vraiment complètement arrangé, mais moi j'avais mis ça sur effectivement ce qu'on appellerait la convalescence d'un virus, comme après une énorme grippe ou je sais pas quoi, on se dit pendant 2-3 mois on est cassé. Mais en fait c'est un deuxième temps, et ce deuxième temps c'est tout d'un coup, on n'est plus dans la convalescence, c'est juste pas possible. Et on arrive d'un moment où plus il y a d'efforts qui sont faits, plus il avançait dans l'école, moins il allait en cours, plus c'était dur de se lever, plus les symptômes revenaient, avec des symptômes beaucoup plus neurologiques cette fois-ci, des difficultés à finir une phrase, des difficultés à se concentrer, à savoir ce qu'il venait de dire, des maux de tête énormes qui partent de son front, et dès qu'il a un mal de tête, il arrive plus à, il perd son équilibre, il sait plus vraiment, parfois il doit s'asseoir, il s'est évanoui à l'école, il a des éruptions cutanées énormes, bon bien sûr la perte de goût, etc.
Mais ça c'est encore aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui.
Ah ouais, non, mais le problème de Adrien, c'est que par rapport à moi, qui a un peu les mêmes symptômes, parce que j'ai entendu symptômes récurrents et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que des symptômes qui reviennent quand même beaucoup, comme les engourdissements des membres, les maux de tête, le brain fog, les déséquilibres, etc., ça revient très souvent et c'est effectivement invalidant. La fatigue, les coups de fatigue énormes qui peuvent arriver, on peut dormir n'importe où. Tout ça, ça arrive. Mais pour Adrien, lui, il est passé dans une troisième phase, que j'appellerais une troisième phase, qui va arriver, je pense, sur des Covid longs, qui est en train d'arriver, qui est certains Covid longs. Parce que pour moi, c'est une deuxième partie de maladie où le corps s'emballe, en fait, et où il doit avoir une inflammation de plein de... Bah, du cerveau, certainement, mais plein d'autres endroits. Et qui, lui, arrive à une troisième phase où, là, il a une maladie peut-être à long terme, c'est-à-dire à vie. Derrière.
D'accord. Docteur Salmon, c'est fréquent. Pardon, je vous interromps deux secondes, Bianca, mais c'est intéressant d'avoir l'avis d'un médecin également. Docteur Salmon-Séron, c'est fréquent ce genre de symptômes, première vague, deuxième vague, troisième vague, comme vit ce petit garçon de 14 ans.
Oui, c'est Covid-19 évolue comme ça par des phases d'exacerbation, comme les témoignages l'ont bien montré. Des jours où on se réveille, on est bien, et puis tout d'un coup, on a à nouveau des symptômes qui arrivent. Et donc ça, c'est très caractéristique. Et dans les symptômes, il y a effectivement la fatigue, il y a ces signes thoraciques et les signes neurologiques qu'on vient de décrire là, avec cette espèce de brouillard cérébral, trouble de mémoire. Et je pense qu'il faut être très vigilant vis-à-vis des enfants à l'école. Hein. S'ils n'arrivent plus à suivre, s'ils décrochent, il faut se méfier. Je pense que c'est beaucoup moins grave chez l'enfant en général. Mais malgré tout, il doit y avoir aussi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas certaines formes, chez les, au moins chez les adolescents. Peut-être pas les petits-enfants, mais au moins
il
chez les adolescents.
Il a 14 ans, Adrien. Mais comment ça se passe, qu'on comprenne bien, Cécile Montaille, la plupart des Covid longs, ils ont encore le virus dans le sang pour que ça leur donne tous ces symptômes?
Alors, pour rebondir sur les enfants, donc, ça a été décrit, des Covid longs chez les enfants. Il n'y a pas encore de littérature scientifique sur le sujet, donc c'est le tout début. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez sporadique, donc heureusement, ça ne touche que très, 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 très peu d'enfants. Après, quand ça tombe sur nous, bien sûr, c'est important et il faut qu'on le comprenne. Et ce qu'on remarque, c'est que voilà, à partir de l'adolescence, donc 14 ans, je pense qu'Adrien tombe dans cette tranche d'âge, à partir de l'adolescence, en fait, les symptômes se rapprochent tout à fait des Covid longs de l'adulte. Donc, qui évolue par poussée, avec des symptômes qui n'étaient pas forcément présents lors de la phase de Covid initiale et qui sont très handicapants et qui sont assez imprévisibles et effectivement auxquels il faut faire vraiment attention.
Il a quel suivi, pardon, aujourd'hui, votre fils, Bianca?
Alors, un des problèmes que j'ai eu, c'est l'école, c'est-à-dire qu'il a commencé à rater l'école de plus en plus, ouais, jusqu'à ce qu'il puisse pas du tout y aller. Et le long Covid étant, bah là, j'ai vu que la Haute Autorité l'avait reconnu plus ou moins, mais il n'est pas vraiment reconnu en termes de longue maladie. Donc, en fait, il n'a pas été pris en charge par le CNED ou quoi que ce soit, parce que pour les médecins du rectorat, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est un des soucis. Il faudrait réfléchir quand même à ce que ça existe pour la vie courante, parce que quand un médecin dit « Ok, vous avez le long Covid », et ensuite, voilà. Alors, et la deuxième chose, dites-moi. C'est que lui, comme ça s'aggravait, j'ai vu une spécialiste, quoi, une virolopédiatre, qui a réfléchi aux autres virus, en fait, au MERS, au SARS-1, à la rougeole, à tous les virus qui pouvaient donner des choses neurologiques ou des choses, des inflammations multiples derrière. Et elle a fait un examen des anticorps et lui, il a un problème certainement. Maintenant un nouveau problème, une nouvelle maladie certainement grave. Voilà.
Bianca, je vous souhaite à vous aussi et à votre fils énormément de courage. Cécile Montaille, vous vouliez dire quelque chose?
Non, j'ai pas
à
répondu
Bianca
à votre question tout à l'heure, c'est pour ça. Est-ce que le virus était encore présent?
Oui, pardon.
Alors, en fait, encore une fois, on aime bien avoir toutes les réponses, mais on ne les a pas. On pense que probablement le virus n'est pas présent et on voit d'autres virus qui sont comme ce Covid, qui stimule le système immunitaire, qui répond parfois de façon inadaptée et qui peut provoquer une inflammation, des déréglations dans le corps qui vont pouvoir donner ce type de symptômes. Ça se voit avec d'autres virus.
Et c'est le cas de ce petit garçon, peut-être, on disait.
Tout à fait, tout à fait. Et je suis très contente de voir que ce petit garçon, en fait, on ne peut pas juste dire c'est le Covid long. Il faut quand même aller chercher s'il n'y a pas effectivement d'autres pathologies et faire des examens. C'est pas juste « Ah oui, on dirait que c'est le Covid long, et ben il n'y a rien à faire, désolé, au revoir ». Ça, c'est très important. Mais après, est-ce que le virus n'est plus là? Est-ce qu'il n'est pas dormant quelque part? Je pense que c'est encore à montrer.
On ne le sait pas pour l'instant. Elle évoquait tout à l'heure, Bianca, la Haute Autorité de Santé, qui a mis effectivement aujourd'hui, Dominique Salmon-Séron, un outil à disposition des médecins, une sorte de petit guide, en tout cas des fiches techniques pour les aider à les prendre en charge. Par exemple, la fatigue est déclenchée par certains facteurs qu'il faut éviter, etc. C'est un mode d'emploi, ça va être bien utile, j'imagine, pour ces médecins.
C'est même une grosse avancée, à mon avis, parce que le fait que la Haute Autorité de Santé ait fait des recommandations sur les Covid longs, ça veut dire que c'est reconnu. Oui. Et donc, en plus, ces recommandations s'adressent aux personnes qui ont un Covid confirmé avec une PCR ou une sérologie, mais aussi à ceux qui ont eu un Covid probable. Et souvent, ces patients qui ont eu un Covid probable et ont des formes prolongées n'étaient justement pas crus. Donc là, c'est déjà vraiment une reconnaissance. Après, ce document...
Et ça, c'est très important,
c'est
la reconnaissance.
C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas parler, si vous voulez, de prise en charge en longue maladie, en maladie professionnelle, tant qu'il n'y a pas eu cette étape.
Pour l'instant,
et ça, je trouve ça très courageux
charge,
de la Haute Autorité de Santé, parce que, comme le disait Dr Montaille, on ne connaît pas tout. Et malgré tout, on a fait ces recommandations. Donc, c'est un document en deux parties. Une partie qui s'appelle la réponse rapide, qui, l'objet, si vous voulez, c'est de dire le patient doit être pris en charge dans sa globalité, le médecin doit écouter les symptômes sans juger, et ensuite, essayer de les analyser, de faire un diagnostic, de donner un traitement. Et puis, il y a une seconde partie qui sont des fiches techniques, une dizaine de fiches techniques par symptôme. Donc, les gens qui ont un essoufflement, une fatigue, des douleurs thoraciques, des signes neurologiques, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour les médecins, essentiellement, l'objectif est pour les médecins, mais aussi pour les kinés, les autres professionnels et pour les patients. Je pense que ça sera aussi repris pour
ça,
les patients.
C'est important, oui, bien sûr.
Juste encore une petite chose, c'est donc un document provisoire, c'est la première version. Hein. Peut-être que ça ne satisfera pas tout le monde et peut-être que le nom n'est pas encore le nom définitif. Hein. Ça va dépendre de ce que l'OMS va nous dire. Mais c'est quand même une étape majeure.
Alors, on a également Karine qui est en ligne avec nous depuis Mérignac, en Gironde. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
Merci à vous également de bien vouloir témoigner. Vous avez 46 ans, 3 enfants et vous aussi depuis des mois, vous souffrez de symptômes très invalidants qui viennent et qui repartent, dites-vous, hein, comme plusieurs de nos témoignages ce soir. On précise que vous étiez avant cet épisode une grande sportive qui faisait des ultra-trails. Vous avez consulté beaucoup de médecins et tous vous disent aujourd'hui, soyez patiente. Hein. C'est terrible d'entendre ça.
Oui, c'est ça. Il faut être patiente et attendre parce qu'effectivement, ils n'ont pas de réponse à nos questions, en fait.
Alors, donc, vos questions à vous, moi, mais oui. Vous faites surtout beaucoup de soucis. Vous êtes très inquiète pour deux de vos enfants, notamment oui. Le petit Manoa qui a 12 ans et qui, dites-vous, est aujourd'hui l'ombre de lui-même. C'est terrible.
Oui. Oui, oui, Manoa, donc il avait 11 ans quand on a eu tous le Covid. Et là, à l'heure actuelle, voilà, il est en mi-temps thérapeutique à l'école, donc il n'est pas en capacité d'y retourner à temps plein. En novembre-décembre, il n'est pas du tout allé à l'école parce qu'il n'était pas capable d'y aller. Et effectivement, c'est l'ombre de lui-même dans le sens où il ne comprend... Enfin, il a beaucoup de brouillard cérébral, il ne comprend plus les exercices, il ne comprend plus les énoncés. C'est très compliqué, en fait, de faire les devoirs avec lui ou qu'il puisse suivre en cours. Donc, quand il est reposé, ça va, il arrive à comprendre. Et dès qu'il est un peu fatigué, il ne comprend plus rien. À un moment, par exemple, juste le fait d'écrire son nom, il me disait « Mais maman, je ne sais pas comment faire ». Il ne savait même plus écrire son nom. Donc, c'est vraiment très problématique. Et oui, ça, en tant que maman, ça m'inquiète parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va récupérer ses facultés, si ça va s'améliorer. Bon, ça s'améliore un peu, mais ça fait maintenant un an et le problème est toujours présent.
Alors, vous demandez, vous aussi, que le Covid long soit reconnu, y compris donc au niveau pédiatrique. Et vous demandez aussi, c'est un problème qu'on n'a pas encore évoqué, mais qu'on n'ait pas à faire l'avance des frais de nombreux examens, parce que forcément, ça coûte très cher. Vous a demandé de faire des prises de sang, des échographies, des radiographies, des scanners, j'imagine.
Oui, tout à fait. Mais moi, je suis en plus... je suis toute seule. Mes enfants, je m'en occupe seule. Mmh. Et je dois faire l'avance, donc on est trois, et je dois faire l'avance pour nous trois. Donc c'est très coûteux. On a trouvé quand même, par exemple, l'ostéopathie nous a beaucoup soulagés, mais il n'y a que deux séances remboursées par an par la mutuelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus y aller à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup aussi de frais, voilà, les échographies, les... Il faut faire l'avance pour tout le monde dans la famille, donc c'est
j'imagine.
Très compliqué, surtout quand on ne travaille plus.
Oui, j'imagine. Merci infiniment. Bon courage à vous aussi, Karine, à tous ces malades qui nous écoutent, Cécile Monteil, professeur Salmon Séron. Quels conseils vous pouvez leur donner très rapidement pour conclure cette émission?
Alors effectivement, entendre le fait de devoir patienter, c'est très difficile. Et il faut se faire accompagner sur le plan psychologique, hein, parce que c'est une bataille en fait qui est difficile à mener seule. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, ça s'améliore. Et si tout le monde participe à la recherche et qu'on va arriver à trouver des choses, et l'idée, c'est quand même qu'on arrive à mieux prendre en charge cette forme chronique de la maladie. Donc essayons d'être positifs.
On va être positifs, c'est important, oui. Professeur Salmon Séron, vous y croyez, vous, on va trouver quelque chose, on va s'en sortir de ces Covid longs?
Oui, je pense qu'on va trouver. On a trouvé dans beaucoup de maladies chroniques et qui ont été vraiment... complètement modifié, par exemple le VIH, l'hépatite, donc on va finir par trouver. C'est une question de temps.
Oui.
C'est vrai qu'on aimerait bien avoir l'antiviral qui marche, qu'on peut donner. Moi, à la différence du docteur Monteil, je pense que certains patients ont peut-être encore le virus qui continue à irriter. Il y a des signes inflammatoires, mais aussi des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui est toujours actif.
Il y a encore voilà. beaucoup de mystères, effectivement, mais beaucoup d'espoir. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce soir. Je vous remercie infiniment toutes les deux, professeur Salmon-Séron, professeur Monteil. Merci également à Mélissa, à Bianca et à Karine pour leur témoignage très fort. Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.